RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour Alban Leprince.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une du journal, quelle garantie de sécurité pour l'Ukraine ?
Question ce matin au lendemain d'un sommet organisé à Paris avec une trentaine de dirigeants. Une mission franco-britannique doit être envoyée sur place dans les prochains jours. Objectif et enjeu dans un instant. Nous irons aussi à Soumy avec la correspondante de RFI, ville du nord-est de l'Ukraine, visée quasi quotidiennement par l'armée russe. Sur place, de nombreux habitants ont tout perdu et les autorités sont submergées. Au sommaire également l'horreur de Gaza depuis la reprise des bombardements israéliens il y a 10 jours. Les images qui proviennent du territoire palestinien sont insoutenables. Reportage dans ce journal. Et puis Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, sera-t-il emprisonné, jugé pour le financement présumé libyen de sa campagne de 2007? Le parquet a requis 7 ans de prison.
Vladimir Poutine évoque ce matin l'idée d'une administration transitoire sous l'égide des Nations Unies pour l'Ukraine. Objectif, organiser une élection présidentielle et négocier un accord de paix avec les nouvelles autorités.
Déclaration au lendemain du sommet des alliés de l'Ukraine organisé à Paris autour d'une trentaine de dirigeants pour finaliser les garanties de sécurité à apporter à Kiev en cas de paix avec la Russie et 2 jours après l'annonce par les États-Unis d'un accord sur la fin des hostilités en mer Noire. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Alban.
Vous êtes le spécialiste défense de RFI. À la manœuvre, la France et le Royaume-Uni, les deux pays, vont d'ailleurs envoyer dans les prochains jours une mission en Ukraine. Elle sera chargée de préparer ce que sera le format de l'armée ukrainienne et un potentiel déploiement de forces. Franck, le schéma d'action est prêt. Reste maintenant à déterminer ce que les pays volontaires seront prêts à engager.
Effectivement, premier axe d'effort, un soutien accru à l'armée ukrainienne, car insistait Emmanuel Macron, la meilleure garantie de sécurité pour l'Ukraine, eh bien, c'est l'armée ukrainienne elle-même. Il faut désormais déterminer le format d'aide pour cette armée, un format finlandais avec une population en armes, un modèle d'armée qui tient le front ou encore une armée prête à repartir à l'offensive. Et si ça ne suffit pas, en deuxième ligne, c'est la plus discutée, les pays européens volontaires envisagent de déployer des troupes au sol. Une option défendue par Londres et Paris et qui a été posée à Alban dès le 11 mars dernier par les deux chefs d'état-major, l'amiral britannique Tony Radakin et le général français Thierry Burkhard. Un véritable tournant puisque 10 chefs d'état-major européens réunis ce jour-là à Paris avaient indiqué avoir un feu vert de leur gouvernement pour une telle mission. On parle de réassurance, mais ce déploiement ne sera pas une force d'interposition, précisé française et britannique. Il devra en revanche être composé de grandes unités, soit près de 30 000 hommes, et les options sont nombreuses. Faut-il placer cette force au centre de l'Ukraine, ou encore faut-il se limiter à des missions de protection sur le flanc est européen? Les questions ne manquent pas, vous l'avez compris, mandat a été donné aux militaires français et britanniques pour préparer les schémas d'action.
Alors sur le plan militaire, quels pourraient être les effets d'un tel déploiement ?
L'importance de la force devrait poser un problème à l'armée russe si elle cherche à progresser, mais il faudra au moins 6 mois, disent les militaires, pour la déployer. Il faudra aussi mesurer tous les risques, l'escalade avec Moscou et de possibles attaques. L'utilisation d'avions de chasse le long de la frontière ukrainienne serait plus rapide et tout aussi dissuasif, font déjà entendre d'autres voix.
Merci Franck Alexandre. Alors, on le disait à l'instant, une mission doit se rendre en Ukraine dans les prochains jours. Tandis que sur le terrain, Moscou et Kiev s'accusent déjà mutuellement de violer le moratoire sur les infrastructures énergétiques. Les frappes, elles, continuent à Soumy, notamment pilonnées quasi quotidiennement par l'armée russe. Dans la ville, de nombreux habitants ont tout perdu et s'en remettent aux autorités et structures d'accueil débordées. Le reportage de la correspondante de RFI, Emmanuelle Chaz.
Nous sommes dans un centre d'accueil pour personnes déplacées en plein cœur de Soumy. Ici, chaque jour, des dizaines de personnes arrivent des villages alentours. Elles viennent d'être évacuées dans l'urgence. Anton, qui travaille pour l'ONG World Central Kitchen à Soumy, explique.
Elles quittent maintenant les points les plus chauds de la région. Kranospilia, Amiropilska, Yunokivska, Bilopolska, les localités qui sont désormais sous le feu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Parmi ces personnes déplacées, Lyudmila, 60 ans, vient tout juste d'arriver de Krasnopilia, à une douzaine de kilomètres de la frontière russe. Elle a tout perdu.
Les magasins ne fonctionnent plus, ils ont été bombardés. L'un, puis l'autre, ma maison n'a plus de fenêtres. Tout le monde s'est enfui. Il y a beaucoup de dégâts là-bas.
Olia, elle, vient de Mouroutsia, à quelques kilomètres seulement de la frontière.
Pourquoi sommes-nous partis ? Parce que la maison a été complètement détruite. Plus de fenêtres, plus de portes, plus de plafonds. Bon, avant je réfléchissais à l'endroit où je pourrais aller, où ce serait mieux. En fait, j'ai espéré le meilleur jusqu'au dernier moment.
Avec son mari Nikolai, Olia ne sait pas encore où aller. Ils passeront quelques jours ou quelques semaines dans ce centre d'hébergement d'urgence qui ne désemplit pas, dans une ville elle-même régulièrement ciblée par les frappes russes. Emmanuel Chasse, soumis RFI.
Et après le dossier ukrainien, Emmanuel Macron se saisit de celui du Proche-Orient. Aujourd'hui, le président français reçoit son homologue libanais, Joseph Aoun. C'est son premier déplacement officiel en Occident depuis son élection en janvier. Et ils seront rejoints en visioconférence lors de leur entretien par le président syrien intérimaire, Ahmed Al-Sharré, pour évoquer ensemble la sécurité à la frontière syro-libanaise. Notez également que l'armée israélienne annonce ce matin que 2 projectiles ont été tirés depuis le Liban.
Au Qatar, les négociations ont repris hier entre le Hamas et les médiateurs égyptiens et qatariens pour relancer le cessez-le-feu à Gaza et les échanges de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens.
Objectif, parvenir à une trêve pendant l'Aïd et permettre à l'aide humanitaire d'entrer sur le territoire. Alors que les bombardements israéliens ont repris depuis 10 jours, faisant au moins 855 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Des images insoutenables parviennent d'ailleurs de l'enclave palestinienne, un bain de sang, des membres arrachés, des corps décapités. L'horreur constatée par le correspondant de RFI à Gaza, Rami Al-Megari et Sami Bourlifa.
Accroupi devant le corps déchiqueté de son fils, un père gazaoui tient la tête décapitée de son enfant entre ses mains. Pas de pleurs, pas de larmes, des gestes tendres, des caresses sur la joue, sur les cheveux, une prière, une invocation, un adieu. La vidéo est partagée sur les réseaux sociaux. Fatima était là lorsqu'en pleine nuit, cette bombe s'est abattue sur Jabalia et a fauché de nombreuses vies.
J'ai vu des scènes terrifiantes. Les gens couraient dans tous les sens. Il y avait du sang et des morts partout. J'aurais beau vous décrire l'horreur, je ne pense pas que mes mots suffiront. Nous avons ramassé des cadavres d'enfants. Ils ont bombardé des enfants.
Autrefois, à Gaza, les bombes s'abattaient sur des habitations, des maisons en dur, mais elles n'existent plus. Aujourd'hui, les gens vivent sous des tentes, détaille Fatima.
Quelle horreur ! Ces avions qui viennent bombarder des enfants, des femmes et des personnes âgées en plein sommeil et qui n'ont pour abri qu'une simple tente.
À Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, Jihad et sa famille ne savent plus où aller.
Il n'y a aucun endroit sûr dans la bande de Gaza, donc on évite de se déplacer. Je vous assure, la situation est terrifiante ici. Potentiellement, on est tous une cible.
Le 18 mars dernier, Israël a violé unilatéralement la trêve en vigueur depuis le mois de janvier dans la bande de Gaza, exigeant des Gazaouis qu'ils lui remettent les otages et qu'ils chassent le Hamas, sans quoi ils subiraient des mesures jamais vues auparavant. Rami Al-Merali, Gaza, Sami Bourlifa, Jérusalem.
Elle a une également, Alban, une nouvelle affaire dramatique qui alerte une fois de plus sur les dangers du recrutement de travailleurs à l'étranger.
7 ressortissants malgaches se sont retrouvés piégés dans un réseau de trafic d'êtres humains au Cameroun après avoir répondu à de fausses offres d'emploi en ligne. Démantelées le 19 mars à Yaoundé, les victimes ont été libérées. Une nouvelle illustration d'un fléau qui gagne de plus en plus de terrain en Afrique, comme l'explique Maria Raharna Rivnirine, avocate et présidente de l'association ACAT Madagascar, engagée contre les traitements inhumains et dégradants des personnes.
Avant, c'était des pays arabes plutôt, hein, le Koweït, le Liban, etc. Mais au Cameroun, ça m'a quand même assez étonnée. C'est la première fois. Pour moi, ça veut dire qu'il y a une expansion géographique de cette traite, hein, en Afrique francophone. Pour ces gens, justement, qui ne sont pas suffisamment outillés ou cultivés, ce sont des proies faciles. Donc, le ministère du Travail devrait s'atteler rapidement à la mise en place d'un mécanisme de protection et accorder des agréments pour les agences de recrutement. Pour travailler à l'étranger. Au moins, il y aura une voie officielle pour vérifier que les emplois offerts existent bel et bien et qu'il y a des entreprises identifiables pour s'expatrier, pour aller travailler à l'extérieur.
Des propos recueillis par Pauline Le Troquier.
Retour en France, 7 ans de prison, 300 000 euros d'amende, c'est la peine requise à l'encontre de Nicolas Sarkozy.
Une peine que le parquet qualifie de ferme, juste dissuasive pour l'ancien président, jugé pour le financement présumé libyen de sa campagne de 2007. Sur ses réseaux sociaux, Nicolas Sarkozy a dénoncé en fin de journée l'outrance de la peine réclamée. Ses avocats préparent donc leurs arguments avant leur plaidoirie la semaine prochaine. Baptiste Coulon.
Répondre en s'appuyant d'abord sur la seule concession offerte par le parquet. Pas de traces matérielles d'un financement libyen dans la campagne de 2007, les magistrats l'ont reconnu eux-mêmes. Par ailleurs, 30 000 euros en liquide ont bien circulé durant la campagne, selon les enquêteurs, loin des 6 millions d'euros d'argent libyen dont aurait bénéficié le clan Sarkozy. Répondre aussi en balayant les deux fondements de l'accusation. Le premier, Nicolas Sarkozy n'a jamais demandé directement à Muammar Kadhafi de financer sa campagne présidentielle. Le second, cette note du régime libyen révélée par Mediapart portant sur un accord de financement de la campagne à hauteur de 50 millions d'euros. Un faux document pour la défense dont l'authenticité ne fait pourtant pas de doute selon les juges. Mais les avocats de Nicolas Sarkozy plaideront-ils comme leur client le complot ourdi par des Libyens revanchards après la chute de Kadhafi en 2011 ? Problème, un carnet de notes de l'ancien ministre libyen du pétrole est retrouvé lors de sa mort en 2012 et en date du 29 avril 2007, il fait état d'un transfert de 6 millions d'euros entre Libyens et Français. De quoi fragiliser l'argument du complot.
Baptiste Coulon.
Et on termine ce journal au cinéma avec la sortie mercredi au cinéma de l'adaptation d'un best-seller.
Lire Lolita à Téhéran, réalisé par l'Israélien Eran Riklis, une adaptation du livre d'Azar Nafisi interprété par l'actrice iranienne Golshifteh Farahani. Elle joue une professeure de littérature anglo-saxonne dans l'Iran de la Révolution islamique. Elisabeth Le Carré.
Great books are supposed to make you feel uneasy.
Quoi de plus inoffensif qu'un club de lecture ? Rien, sauf si l'on vit dans l'Iran des années 80 où des livres comme Orgueil et Préjugés, Gatsby le Magnifique et bien sûr Lolita sont considérés comme sataniques par les autorités. Renvoyé de l'université, Azar décide de réunir secrètement, chaque jeudi après-midi, 7 de ses étudiantes pour lire des classiques de la littérature occidentale censurés par le régime.
Reading Lolita here in Tehran will help us fight back.
Alors que les fondamentalistes sont au pouvoir, elles se retrouvent, retirent leur voile et parlent de littérature, bien sûr, mais aussi de leurs amours et de leurs espoirs. Classique, voire un brin convenu, le film capture néanmoins l'atmosphère étouffante de l'époque et les actrices, notamment Golshifteh Farahani, transmettent avec justesse la colère et la peur, tandis que la société devient de plus en plus oppressive. Lire devient alors le moyen, peut-être le seul, de conquérir un espace de liberté et de beauté, voire de devenir un outil de résistance contre un régime qui veut contrôler jusqu'à la pensée.
Elisabeth Le Carré pour la sortie au cinéma de Lire Lolita à Téhéran.
Merci Alban Le Prince et tout de suite les sports. Avec vous Antoine Grenier, en football, la 27e journée de Ligue 1 s'ouvre ce vendredi avec deux prétendants à l'Europe face à face.
Le Racing Club de Strasbourg accueille l'Olympique Lyonnais, des Alsaciens qui surprennent tout le monde cette saison avec une solide 7e place, 2 points derrière l'OL 5e et à 4 du podium. Les Lyonnais, eux, ont perdu leur coach Paolo Fonseca, suspendu jusqu'en novembre pour avoir menacé physiquement un arbitre, mais la bonne dynamique de l'OL n'en a pas souffert avec 3 victoires consécutives. Le coach portugais, séduit par l'équipe strasbourgeoise, mais qui prévient que ses joueurs sont prêts.
Et je suis confiant, j'ai beaucoup de confiance à tous les joueurs de l'équipe. Les joueurs sont prêts, tous les joueurs sont prêts pour jouer. Je m'attends que nous continuons à avoir cette mentalité qu'on a maintenant. Nous savons que c'est un match difficile, très difficile, mais aussi un match important pour nous. L'entraîneur a fait un magnifique travail avec des jeunes joueurs et une équipe que j'aime beaucoup de voir. Ça sera difficile pour nous, mais je crois aussi que ça sera difficile pour Strasbourg.
Strasbourg, OL, coup d'envoi 19h45, temps universel.
En Italie, la 30e journée débute samedi et en attendant, la Juventus a présenté son nouvel entraîneur.
La Juve qui fait du neuf avec du vieux. Igor Tudor remplace Thiago Motta, remercié après une mauvaise série de résultats qui place la vieille dame à une décevante 5e place du Calcio. Ancien de la Juve entre 98 et 2007, Tudor retrouve avec émotion un vestiaire qu'il a bien connu.
Emozioni ci sono chiaramente. L'émotion est là, évidemment, pas seulement parce que c'est la Juve et pour ce qu'elle représente, mais parce que c'est un club que tout le monde voudrait entraîner. J'ai cette envie de travailler, de bien faire, de réussir à atteindre les objectifs que nous connaissons tous. Je crois vraiment en cette équipe. Je pense qu'il y a de très bons joueurs. Il va falloir travailler sur tout, apporter de la légèreté tout en donnant de l'agressivité mentale et de la motivation. D'un point de vue tactique aussi, il y a des choses à faire, mais elles ne doivent pas être trop nombreuses. L'essentiel est de ne rien négliger, mais d'y aller fort, vite, tout en étant conscient de ce que nous représentons.
Però andare forte, consapevoli quello che rappresentiamo.
Igor Tudor, dont le premier match avec la Juventus Turin aura lieu demain face au Genoa d'un ancien de la Juve, Patrick Vieira.
Le foot féminin également à la une avec les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions féminines désormais connues.
Chelsea qui a dominé Manchester City 3-0 affrontera Barcelone qui a sans surprise surclassé Wolfsburg. L'autre demi opposera Lyon à Arsenal.
Et en tennis pour finir, première finale à Miami pour la numéro 1 mondiale.
Arina Sabalenka sans aucune pitié pour l'italienne Jasmine Paolini. Victoire expéditive 6-2-6-2. Ça sera la quatrième finale pour Sabalenka en 2025. Elle y affrontera l'américaine Jessica Pegula qui est venue à bout de la sensation philippine, Alexandra et Alas, 7-6-5-7-7-6-3. Chez les messieurs, fin de parcours pour le numéro 1 français, Arthur Fils, éliminé par le tchèque Jakub Mensik en deux manches, 7-6-6-1.
Merci Antoine Grenier. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Julien.
Dans Aujourd'hui l'économie, on s'intéresse ce matin à un vieux serpent de mer, le changement d'heure. Puisque les Européens passeront dimanche à l'heure d'été, une heure à deux heures de plus par rapport au temps universel, on connaît ça très bien sur RFI. Mais au-delà des manœuvres d'horlogerie, deux fois par an, cette mesure a des conséquences économiques, Stéphane.
Oui, car pour comprendre cette idée du changement d'heure, il faut remonter dans les années 70. L'Europe, et a fortiori la France, traverse une grande crise pétrolière. En 1975, devant la hausse du prix du fioul, qui était très utilisé pour produire de l'énergie, chauffage et lumière, il a été décidé de changer d'heure afin de réduire le temps d'éclairage artificiel. Réduire ses besoins a été bénéfique sur la consommation d'électricité nationale. À ses débuts, la mesure a permis d'économiser jusqu'à 1200 gigawattheures par an. Pour vous faire une idée, c'est l'équivalent de la consommation annuelle en éclairage de plusieurs millions de foyers.
Ça, c'est en France, mais d'autres pays ont aussi fait ce choix du changement d'heure.
Oui, à l'échelle européenne, il y a eu une harmonisation de cette mesure en 1988. L'objectif étant le même, réduire la consommation d'électricité et donc payer moins. Le monde a d'ailleurs pris cette idée très au sérieux. Aujourd'hui, par exemple, une grande partie des États-Unis change encore d'heure au printemps et en hiver. Mais la mesure est contestée et globalement abandonnée. Le Mexique y a mis fin il y a deux ans. L'Argentine, la Russie, la Tunisie, la Turquie, l'Égypte ou encore l'Arménie, pour ne citer que, ont eux aussi décidé d'abandonner les changements d'heure saisonniers.
Et pourquoi ce changement d'heure est-il de plus en plus boudé ?
Eh bien tout simplement parce que les gains sont marginaux, voire dérisoires. En France, ces dernières années, d'après les travaux de l'Agence de la Transition écologique, ce changement d'heure a fait économiser autour de 350 gigawattheures par an. C'est 4 fois moins qu'en 1980. Cela s'explique par l'amélioration continue de la performance des systèmes d'éclairage et de meilleures politiques énergétiques. Au sein de l'Union européenne, d'ailleurs, une proposition pour supprimer ce système a été votée en 2019, mais elle n'a jamais été appliquée puisque les États membres doivent d'abord se coordonner. Et Julien, ils ont d'autres priorités.
Car changer d'heure deux fois par an a des conséquences dans l'activité économique et financière tout autour du monde.
Exactement. Au-delà de la consommation d'énergie, cela représente des coûts. Et oui, les systèmes informatiques, tout comme les horaires de transport, doivent être réajustés. Et cette manœuvre peut engendrer des surcoûts et des perturbations dans l'activité des organisations. Et puis au sein de l'UE, si chaque pays décide de son heure, cela peut avoir des conséquences sur le marché intérieur, notamment pour faire des affaires. Et géographiquement, si la Belgique et la France, par exemple, ont une heure de décalage, cela peut paraître, vous en conviendrez, absurde. Quoi qu'il en soit, si pendant longtemps cette mesure a été perçue comme efficace pour les économies d'énergie, elle semble aujourd'hui à bout de souffle. La production d'énergie, justement, eh bien, elle évolue, les modes de consommation également. Le changement d'heure qui est aujourd'hui plus un choix politique et de société qu'un levier économique majeur.
Et d'ici là, pas d'inquiétude, on vous retrouve lundi à 8h15 désormais, heure de Paris. Il sera toujours 6h15 en temps universel. Merci Stéphane Genest. 7h19 à Paris, notre grand invité international ce matin est un homme de la mer, passé des sous-marins nucléaires au palais de l'Élysée, chef d'état-major de la marine française de 2011 à 2016, chef de l'état-major particulier des présidents François Hollande et Emmanuel Macron de 2016 à 2020, amiral Bernard Rogel, bonjour.
Bonjour monsieur.
Et merci d'être avec nous ce matin sur RFI. C'était hier à Paris un sommet de la coalition des volontaires pour l'Ukraine, à l'issue duquel Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait bien une force de réassurance en cas de trêve en Ukraine, au moment où la Russie s'oppose fermement à tout déploiement de l'OTAN ou des Européens dans le pays. Il ne s'agira, dit le président français, ni d'une force de maintien de la paix, ni de force présente sur la ligne de contact, ni de force qui se substituerait à l'armée ukrainienne. Difficile donc de savoir de quoi il s'agira vraiment. Que faut-il comprendre de cette annonce selon vous ?
Il faut comprendre d'abord qu'on est dans un processus de négociation par la paix, pour la paix, que les Occidentaux, dans leur ensemble, américains compris, veulent plutôt rapide. Là où la différence existe entre les Américains et les Européens, c'est que les Européens sont très attachés à ce que cet accord, cette négociation sur un cessez-le-feu puisse être équilibré et juste, en particulier pour l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de précipiter le mouvement pour aboutir à une sorte de capitulation de l'Ukraine. Donc on est dans ce moment-là, on est dans un moment de préparation ce qui pourrait être un accord de cessez-le-feu. Donc il faut comprendre que les Européens se mettent en ordre de bataille, ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et cherchent peut-être à maintenir une ligne de crête face aux menaces de la Russie concernant un déploiement, avec cette force de réassurance.
Je crois qu'on est encore dans un dialogue qui m'apparaît être un peu un dialogue de sourds aujourd'hui, avec un accord sur la mer Noire sur lequel on peut revenir, qui est un peu un accord en trompe-l'œil, sans mauvais jeu de mots, qui est le début de cette négociation. Donc dans toute négociation, les gens posent leurs cartes sur la table, et puis on a un certain nombre en réserve. Je crois qu'il faut comprendre, de ce que je comprends en tout cas de cette déclaration du président de la République, c'est comment aider l'Ukraine à durer, si je puis dire, et aux armées ukrainiennes à durer. Il y a derrière tout ça des problèmes d'organisation, de maintien en condition des matériels qui ne sont pas forcément des actions de première ligne. Ouais. Donc on est vraiment dans cette volonté d'aider l'Ukraine, sans doute avec une petite suspicion sur les intentions ultérieures
de la
Russie. Poutine.
C'est en tout cas peut-être un pas de plus vers l'Europe de la défense. Après le plan de réarmement de 800 milliards d'euros présenté par Bruxelles il y a quelques semaines, il y a deux ans dans votre ouvrage Un marin à l'Élysée, vous regrettiez l'assoupissement stratégique du vieux continent après la guerre froide. Aujourd'hui, les Européens font donc des pas vers une défense commune. On parle même d'une potentielle dissuasion partagée. Que dites-vous ? Enfin, c'est pas trop tôt ?
Non, je dis tant mieux. Ouais. Je crois que quand on parle de l'assoupissement stratégique, entendons-nous bien, c'était la période 1995-2015, où finalement les pays occidentaux et singulièrement européens se considéraient dans une sorte de mondialisation heureuse, avec un monde qui était plutôt calme, géré par l'Organisation des Nations Unies, et sans menace existentielle aux portes de l'Europe, même s'il y avait des conflits autour. Donc dans cette période-là, les Européens se sont un peu assoupis sur le plan de la défense.
Mais depuis 2015, on leur reproche aussi de s'être assoupis entre les deux mandats de Donald Trump, et de ne pas forcément avoir préparé son retour.
Si vous voulez, il y a beaucoup d'Européens qui étaient... D'abord, c'est pas tout à fait exact pour la France, puisque depuis 2017, l'effort de défense a été considérable et nous permet aujourd'hui d'avoir des armées très opérationnelles. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Mais ce premier mandat de Trump pouvait être considéré par certains Européens qui sont dépendants, plus dépendants que nous des États-Unis. Je rappelle que nous, notre défense est quasiment indépendante, elle l'est pour la dissuasion, elle l'est pour la majeure partie des matériels. On a des technologies françaises un peu partout, donc on n'est pas tout à fait dans la même situation que les Européens. Donc ce premier mandat Trump pouvait apparaître pour certains des Européens comme étant un accident de l'histoire.
Une parenthèse.
Nous, ce qu'on prétendait à l'époque, c'est on disait attention, quoi qu'il en soit, le pivot asiatique des Américains, c'est-à-dire la principale priorité stratégique des Américains, c'est la Chine. Donc on voyait ça. Là, on n'est plus dans un accident de l'histoire. Là, on est dans la confirmation d'une attitude américaine qui est plus auto-centrée sur ses intérêts et moins favorable, si je puis dire, à ses alliances.
Est-ce encore un allié ?
Oui, je crois qu'il faut pas enterrer les États-Unis trop vite. On a, me semble-t-il, toujours des relations militaires un peu partout dans le monde. On verra comment ça évolue. Ce qui a été entamé, c'est très clair, c'est la confiance. L'Alliance Atlantique, c'est une organisation de confiance qui est bâtie sur l'article 5. Je rappelle d'ailleurs que la seule fois où l'article 5 a été invoqué et suivi des faits, c'est pour défendre les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001. Donc c'est un peu paradoxal aujourd'hui qu'on se fasse reprocher par le vice-président de ce manque de prétendu de solidarité. On est solidaire depuis l'instant. Il y a une chance pour l'Europe aujourd'hui, une chance de pouvoir maîtriser son destin. Si il est confirmé que les États-Unis continuent à s'éloigner, eh bien je crois qu'il faut mettre le paquet pour reconstituer l'Europe.
En parlant de confiance, justement, ce qui a fait la une cette semaine aux États-Unis, c'est ce couac qui fait scandale, la révélation par le magazine The Atlantic que l'un de ses journalistes a été inclus par erreur dans une boucle de messagerie non sécurisée où les hauts responsables américains, le secrétaire de la Défense, le vice-président, partageaient en temps réel des informations sur un raid contre les Houthis au Yémen. On apprend aussi que des coordonnées et même parfois des mots de passe de hauts responsables ont fuité sur Internet. Quelles conclusions tirer pour les partenaires des États-Unis aujourd'hui, pour les pays notamment qui sont engagés militairement dans des opérations conjointes, dans des partages de renseignements? Faut-il se méfier des informations qu'on partage désormais avec Washington?
Non, je crois pas. Je crois que c'est un incident qui, de mon point de vue, pour avoir manipulé ce genre de données tout au long de ma carrière, est assez incroyable. En réalité, je pense que ces hauts responsables américains continuaient à utiliser ce qu'ils étaient les moyens qu'ils utilisaient pendant la campagne. Et moi qui connais bien les États-Unis, je peux vous assurer qu'ils ont des moyens cryptés autrement plus performants que Signal pour échanger leurs informations. Donc je pense que c'est une erreur de jeunesse, je veux dire un certain manque de maturité.
Un manque d'expérience aussi, quand on voit que des hauts gradés ont été limogés, que
le ministre
de la Défense est un ancien animateur télé.
On est dans des choix qui figuraient dans les intentions électorales de Trump. Donc, si vous voulez, il faut pas se tromper. Les Américains ont choisi Trump une deuxième fois. C'est donc quelque chose qui est profond. Aux Européens d'en tirer les conclusions, et la conclusion qui s'impose, c'est oui, les États-Unis sont encore notre allié jusqu'à un changement éventuel, mais en tout cas, il faut qu'on mette le paquet sur notre autonomie et notre souveraineté européenne. Je crois que c'est la conclusion qu'il faut en tirer.
Et le plus vite possible, parce que si les États-Unis abandonnent l'Europe demain.
Mais d'abord, il ne faut pas rentrer dans une espèce d'hystérie d'inquiétude. On a des armées qui se tiennent en Europe. Quand on fait le bilan de toutes les armées européennes réunies, on arrive à l'équivalent de la Russie. On dispose en France d'une force de dissuasion nucléaire. Donc il faut s'organiser. Organiser l'alliance, la nouvelle alliance européenne.
Merci amiral Bernard Rogel. Je rappelle le titre de votre livre paru il y a 2 ans, Un marin à l'Elysée, des sous-marins nucléaires au bureau du président. Merci beaucoup d'être venu sur RFI ce matin.
C'est un plaisir.
Très bonne journée et à bientôt.
Le FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société Les écrans de la réalité, du 1er au 5 avril à Douai, offre au public et aux professionnels un panorama de l'actualité internationale. Au programme, projection en présence des réalisateurs, avant-première, débat et exposition photo pour voir et comprendre le monde avec ceux qui le racontent. Le FIGRA, du 1er au 5 avril. Plus d'informations sur figra.fr, en partenariat avec France Média Monde.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
L'hydrogène vert serait magique pour la transition énergétique.
60 pays ont déjà investi dans des gigaprojets comme en Uruguay. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? L'hydrogène vert, miracle ou mirage, nous faisons le point avec notre invitée Aline Nipper.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Le saviez-vous ? Le 1er juin 1957, toutes les universités du monde se retrouvent dans la ville de Caen, détruite par les bombardements alliés, pour inaugurer le premier campus de France. Un événement international pour célébrer la paix, la connaissance et la reconstruction des villes sacrifiées de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Samedi, à partir de 14h10 TU.
RFI.